Merci Yannick, des bons mots. Merci Michel, beau témoignage aussi. Ah ben, finalement, il y a plusieurs enfants. Hein? dernier message, dernière prédication pour ceux qui sont nouveaux. Je travaillais dans l'équipe, une belle équipe pastorale ici depuis 7 ans. J'allais amorcer notre 8e année ici à l'église, et c'est notre dernier dimanche ici, bien occupé à la maison, essayer de vendre la maison. On a de même des visiteurs cet après-midi, on en a eu hier et tout ça, alors ça roule. On a déjà fait une offre d'achat à Gatineau, donc ça se précipite, ça avance assez vite. Mais j'aimerais vraiment prendre l'occasion ce matin, premièrement, vous remercier. C'est évident que vous avez marqué notre famille. Pour plusieurs raisons. Premièrement, mon fils a trouvé son épouse ici à Longueuil. Ah, hey, c'est quelque chose. Imaginez si on n'était pas venu à Longueuil. Mon fils sera encore célibataire. Ah, une belle épouse, une femme de Dieu. C'est vraiment Josiane. On est bénis d'avoir Josiane comme belle-fille. Et ça, c'est vous autres, c'est votre contribution, entre autres. Alors, pendant des années, vous l'avez préparé spirituellement, évidemment, ses parents en premier, pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, on bénit Dieu pour votre apport. On garde de bons souvenirs de Longueuil. Et moi, je veux remercier l'Église, je veux remercier le Conseil, je veux remercier Yannick. 7 ans ensemble, j'ai appris beaucoup de choses en travaillant ici à Longueuil. Je garde des souvenirs, de beaux souvenirs. Un soir, je me rappelle, et tu t'en souviens, je pense que tu n'étais peut-être pas là, Alexandre. On était allé dans une retraite d'anciens. Faisait beau, hein? Il y avait de la neige et tout ça. C'était dans l'Estrie, je pense. Hein? C'était un samedi soir, et à ce moment-là, je vivais de quoi avec un de mes enfants. Il n'allait pas bien dans le Seigneur. Et c'était éloigné du Seigneur. Et c'était pas prévu comme ça, c'était prévu que l'on prie ensemble, les anciens, mais ça a donné comme ça, et Dieu avait un rendez-vous ce soir-là. Et le conseil d'anciens, samedi soir, on avait une retraite, toute une fin de semaine planifiée pour garder la vision de l'avenir. Et ce que vous avez vu aujourd'hui, la vision, ça a commencé dans cette époque-là, de réfléchir pour l'avenir, et se faire des buts, des objectifs, et cette fin de semaine-là, qui était une retraite où on voulait réfléchir sur l'avenir de l'Église, le samedi soir, on a tout arrêté. Puis, c'était très beau dehors, c'était dans un chalet, un beau chalet, il y avait de la neige et on allait prendre des marches ensemble. Et le samedi soir, on s'est arrêté dans le salon et tous les anciens, on a commencé à prier. Et j'ai ouvert mon cœur sur ce qu'on vivait avec l'un de nos enfants et puis tous les anciens ensemble, on a commencé à prier. Les gars se sont mis à genoux. Ils se sont mis à genoux pour mon enfant. J'ai commencé à pleurer, crier à Dieu, prier ensemble pour que mon enfant puisse revenir au Seigneur. Et une semaine après, quelques jours après, quelque chose de miraculeux s'est passé et mon enfant est revenu au Seigneur. Ça, c'est ici que c'est arrivé, à l'église de Longueuil. Alors, je suis endetté. J'ai une dette envers vous, parce que vous avez eu un apport important dans notre famille. On a beaucoup reçu, et on veut vous remercier pour ça. Aïe, je pensais pas que j'aurais pleuré. J'ai pleuré. Pleuré cette nuit, imagine-toi. J'étais dans mon lit, puis je pleurais. Ah, ben j'ai dit, je vais être correct, je ne pleurerai pas demain matin. Est-ce qu'il y a des Kleenex? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Merci, Hélène. Merci beaucoup, Denis. Mon doux. Dernier message. Tu dis quoi dans un dernier message? J'ai pris des notes, j'ai dit, je suis pas de suivre. Alors, première affaire que je voulais faire, certainement, c'était de vous remercier. De remercier les anciens aussi. Et ce que j'aimerais vous dire à des anciens, ça a été vraiment un plaisir de travailler avec vous autres. Vous m'avez challengé. Comment est-ce qu'on dit ça en français, là?
Mis au défi.
Vous m'avez provoqué, vous avez provoqué mes réflexions, des affaires que je faisais depuis des années, par habitude, par routine, par tradition. Vous m'avez challengé. Ah, vous ne m'avez pas laissé tranquille. Et c'est bon, c'est correct. J'ai grandi par ça. J'ai tellement appris ici dans les derniers 7 ans. Je repars enrichi, j'ai juste hâte d'arriver à Gatineau et tout mettre ça en pratique là, avec l'équipe là-bas pastorale. Des belles choses que j'ai apprises. Une des choses que j'ai apprises ici, c'est de faire des disciples. Moi, j'ai... Les baby boomers sont ici, vous allez probablement comprendre. Nous, dans le temps, à l'église, à l'église de Laval-Est, et avant ça, même à l'église de Chemédé, moi, j'ai été formé par des messieurs Héron, des messieurs Côte-Noire et tout ça. C'était des pionniers au Québec, c'était des gars qui faisaient du porte-en-porte. Monsieur Héron était mis en prison... pour sa foi, c'était des hommes solides, c'était des gagneurs d'âme. Et j'ai été formé par ces bonhommes-là, des hommes de Dieu, des hommes consacrés. Mais à l'époque, on ne s'arrêtait pas sur nécessairement un individu depuis 2-3 personnes, puis faire des disciples vraiment avec des mois et des mois. J'ai appris ça ici, moi. C'est ici que j'ai appris ça. Les gars m'ont challengé, Yannick, le conseil, de faire des disciples, prendre une personne, puis s'investir dans la vie de cette personne-là pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, prendre 2-3 personnes. Ça, c'est vraiment ici que j'ai appris cette belle richesse. C'est tellement bon. Je suis en train de lire le livre là, que tu m'as refilé, là, que tu m'as recommandé, là, une Bible, un café, des disciples. Là, tu m'en as parlé. Ouais, toi puis Joël. Joël à Cuba m'en a parlé. Et vraiment, là, c'est super. Ça montre comment s'installer avec des gens, là, puis les suivre pendant plusieurs mois. C'est ici ça, que j'ai été challengé à faire ça. Alors, j'ai beaucoup appris et je veux vous remercier. Remercier les anciens. Remercier Yannick. C'est vraiment un morceau important que j'ai vécu ici. Tu m'as souvent challengé. Tu m'as empêché de dormir à quelques reprises. Le conseil aussi, mais ça m'a poussé à remettre en question des affaires que je faisais et je veux bénir Dieu pour ça. On apprend tout le temps. Hein? J'apprends encore, ça fait 32 ans que j'étudie la Bible, 32 ans que je suis chrétien. Je ne sais même plus combien j'ai de crédits tellement j'ai pris de cours. Je suis en haut de 200 quelques crédits, je ne sais même plus où je suis rendu tellement j'ai pris de cours et pourtant on apprend encore. J'ai commencé à lire un livre, Roman Wives, Roman Widows, de Bruce Winter, qui raconte depuis l'an 2000 le paquet de recherches qui s'est fait dans les dernières années depuis. C'est très récent, les découvertes, qui jettent beaucoup de lumière sur l'arrière-scène du Nouveau Testament. Et là, des passages qui parlent des femmes dans le Nouveau Testament, tout d'un coup, on les comprend mieux, toutes sortes de choses. Ça jette de la lumière sur ces passages-là. Et mon ami, j'apprends encore. 32 ans. J'aurais aimé ça faire des sermons là-dessus, mais je m'en vais. Alors, je vais apporter ça à Gatineau certainement les prochains mois, des belles trouvailles, des belles découvertes. Oui, c'est vrai, il y a un Internet aujourd'hui, oui. Aux anciens. Ah, merci beaucoup, Alex. Aux anciens. Moi, j'aimerais vous donner une exhortation que Paul a donnée aux anciens d'Éphèse. Je sais que vous le faites. Je sais que vous êtes des hommes de Dieu consacrés. Vous aimez cette Église. Vous êtes passionnés pour cette Église. Mais j'aimerais quand même vous faire cette recommandation. Où Paul va dire aux anciens, c'était des anciens qu'il parle dans Acte 20. Puis il va dire, Acte 20, 28 et 32. Il dit, prenez garde à vous-même. On a des combats. C'est tellement triste de voir des anciens qui s'éloignent de Dieu après des années. Et ne prenez pas ça pour acquis. Vous allez bien aujourd'hui, vous êtes consacrés des gars, c'est super. Moi, je bénis Dieu pour les anciens dans cette église. Vous êtes bien entourés, les amis. Les anciens ici, c'est des hommes de Dieu. Mais en même temps, j'ai un mot à vous dire. Prenez garde à vous-même. Il y a des combats. On peut facilement se laisser distraire. On peut s'éloigner. je vous encourage, les gars. Prenez garde à vous-même. Il y a des combats à l'extérieur, mais des combats en dedans. Vous les savez, vous les avez, vous les vivez. Prenez garde à vous-même et prenez garde à toute l'Église, à tout le troupeau de Dieu sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. À l'Église. Cette semaine, je ne savais pas trop quel passage prendre pour vous adresser la parole ce matin, avant de partir. L'heure de mon départ approche. Et là, je suis tombé sur... ce qui m'a donné cette piste, c'est que j'ai commencé à regarder les salutations de Paul. Comment lui saluait ces gens? Comment lui saluait la belle famille de Dieu? Et en chemin, je suis tombé sur 2 Corinthiens 13. Et j'aimerais vous inviter, parce que j'aimerais m'en inspirer pour vous donner un dernier appel ce matin et une bénédiction. 2 Corinthiens 13, verset 11. Vous êtes là? Vous avez la Bible très haut, là. J'aimerais savoir ça. Il n'y a rien de plus beau de voir des chrétiens avec leur Bible. Là. Excellent. Là. Il en manque quelques-uns. Là. Ça prend des Bibles. Là. Il y en a un paquet en arrière. Jean-Claude, il attend. Là. Il a hâte de donner des Bibles. Là. Alors, levez la main si vous n'avez pas de Bible. On va vous en donner un. Là. Une, là, on va vous en... Vous passez ça ce matin, ça prend une Bible, la parole. Hein, ça prend la parole de Dieu. Là. C'est triste, vous savez, aux États-Unis, ils mettent les versets sur l'écran. Et ce que ça a fait au fil des années, les chrétiens n'ont même plus leur Bible. Ça, je trouve ça triste. Il n'y a rien de plus beau que d'avoir la parole de Dieu avec vous. Hein. C'est tellement riche. C'est pas partout pareil. Là. Mais c'est un problème qui est aux États-Unis en ce moment. Ils ont à dealer avec ça. 2 Corinthiens 13, verset 11. Au reste, frères, un peu comme si Paul disait en conclusion, pour terminer. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Eh bien, l'apôtre Paul a commencé déjà au chapitre 12, à développer sa dernière section de la lettre, une belle lettre, la deuxième lettre aux Corinthiens. Et déjà au chapitre 12, qu'est-ce qu'il va faire? À partir du verset 9, il va ouvrir son cœur. Et puis, il ouvre son cœur et il partage son souci pour l'Église, ce qui le préoccupe. Et ce que l'on voit déjà au chapitre 12, Paul qui va ouvrir comme le rideau puis va laisser entrevoir vraiment son cœur. Et dans le fond, ce que l'on voit, ses soucis, ce qui le préoccupe, est également ce qui préoccupe les anciens et les pasteurs. Ça laisse voir notre cœur pour l'Église. Et là, Paul va terminer, il va parler de plusieurs choses qui le préoccupent, les soucis qu'il a pour l'Église. Et il va dire, voici ce que j'aimerais voir dans les prochaines années à l'Église de Corinthe. Et en même temps, c'est un mot d'exhortation que moi aussi j'aimerais vous lancer ce matin, un dernier appel avant de partir. C'est, voici ce que j'aimerais voir, moi, d'ici 5 ans, si jamais je reviens dans 5 ans et je vois l'Église de Longueuil, c'est sûr que je vais revenir vous voir, vous saluer. On s'est fait des bons amis ici. On veut vous saluer. Ce qu'on veut voir, c'est ça ici. Et ce que Paul va dire vers la fin du chapitre 13, la façon qu'il va conclure cette belle lettre à cette Église en les saluant, en offrant ses salutations, il va donner une exhortation. Et le message qu'il donne, en fait, c'est il y a un message. C'est une Église unie et celle qui va être bénie de Dieu. Et là, on se demande comment avoir cette unité. Comment rechercher cette unité? Bien, ça prend des attitudes. Hein? Si tu veux être une église vibrante, en santé, unie, qui marche dans la même direction, qui marche dans l'unité, ça prend des attitudes. Absolument, tu ne peux pas être uni si on se déchire, si on se divise, si on chicane, si on est orgueilleux, si on tire la couverture chacun de notre côté. Absolument pas. Tu ne peux pas avoir d'unité comme ça. Alors, ça prend 6 attitudes. Et c'est l'exhortation que j'aimerais vous laisser ce matin, ce dernier appel. Paul appelle l'Église à l'unité, et moi aussi, en même temps, j'aimerais vous encourager à marcher dans l'unité, parce que c'est là que vous allez être bénis. Vous allez avoir la bénédiction de Dieu. Et c'est ça qu'on souhaite. On souhaite que vous soyez bénis. Première chose, première attitude surtout, qui contribue à avoir une Église vibrante et unie, c'est la joie. Regardez la première chose que Paul, première attitude que Paul va parler. Verset 11, débute. Première chose, première attitude, la joie. Réjouissez-vous, restez joyeux. Ne perdez pas la joie. Je rencontre parfois des frères, des sœurs, ils ont perdu la joie du salut. Ne perdez pas votre joie, restez dans la joie. Et constamment, quand on regarde, on feuille le Nouveau Testament, et qu'est-ce qu'on voit fois après fois? Le thème de la joie, ça parle toujours d'une joie abondante. Ça parle que le chrétien a une joie parfaite, complète, indescriptible. Une joie abondante. Et il y a tout lieu de se réjouir. Parce que notre passé est réglé. Alors, on se réjouit que notre passé est réglé. Nos péchés sont pardonnés, c'est effacé, c'est réglé ça. On a une relation avec Dieu maintenant. On a fait la paix avec Dieu. Si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes en paix avec Dieu. Dieu, par la croix, par Jésus-Christ, a réglé cette dette que vous aviez. Vous n'avez plus de dette maintenant, ça a été effacé. Le poids et le fardeau, la culpabilité de vos péchés, c'est réglé à la croix. Donc, on se réjouit, on a un cœur plein de joie parce que notre passé est réglé, c'est fait. Nous sommes en paix. On se réjouit de la croix, on se réjouit des œuvres de Christ et que sa justice a été imputée à nous, transférée sur nous. Dieu nous a adoptés, a fait de nous un enfant. Nous sommes ses enfants. On se réjouit aussi pour notre présent. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons la puissance et la présence du Saint-Esprit avec nous à chaque jour qui nous aide à avancer. Alors, on se réjouit parce que notre passé est réglé. On se réjouit, on a le cœur dans l'abondance. On a la joie parce que notre présent aussi. Dieu nous assure la présence du Saint-Esprit. Nous avons la puissance du Saint-Esprit. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Nous marchons dans la plénitude de l'Esprit. Dieu est là chaque jour. Alors, on se réjouit parce qu'on n'est pas tout seul à mener cette vie chrétienne. Le Saint-Esprit est avec nous autres. C'est pour ça qu'on dit toujours que ce n'est pas une religion. Mais on se réjouit aussi pour l'avenir. On a de la joie pour l'avenir. Savez-vous qu'on a un bon avenir qui nous attend? Amen. Hein? Notre avenir est assuré. L'éternité est assurée. Elle est garantie sous les promesses de Dieu. On sait où on s'en va. C'est juste de la joie de l'autre côté. C'est là qu'on s'en va. Notre cœur est dans la joie parce que nous allons rentrer dans un bonheur éternel, dans la félicité. Il n'y aura plus de douleur, plus de mal, plus de souffrance, plus de maladie. On entre dans cette joie éternelle, parfaite, dans la présence de Dieu. Ce sera merveilleux. Alors, il y a tout lieu de se réjouir. Alors, nos combats présents, les épreuves qu'on peut connaître, la souffrance, parfois la maladie qu'on peut éprouver, restent à quelque part dans le fond de notre cœur. On reste quand même heureux. On ne perd pas cette joie. Cette joie est surnaturelle parce que notre passé, notre présent, notre avenir, tout est garanti, tout est assuré sur les promesses de Dieu. Alors, réjouissez-vous. Soyez des chrétiens heureux. Soyez les employés les plus heureux à votre compagnie. Est-ce que vous êtes les employés les plus heureux chez vous? Où est-ce que vous travaillez? Vous travaillez dans une garderie? Que vous soyez la meilleure, toujours la belle attitude, pleine de joie, parce que Jésus est votre sauveur et il vit. Il est vivant. Ah oui, il va y avoir des accrochages. Quand 7-8 bébés commencent à crier et pleurer, c'est pas évident, je sais, c'est sûr. Mais à quelque part, hein, dans le fond de ton cœur, il reste cette joie abondante là, quand même, de savoir qu'il est l'enfant de Dieu. Deuxièmement, Paul dit, restez pas les mêmes. Perfectionnez-vous, restez pas pareils. Ne soyez pas comme vous étiez hier. Changez, travaillez, grandissez. Travaillez sur vous-même. Il y a toujours lieu de s'améliorer. Toujours. Moi, ça fait combien d'années que je suis marié? Disons, T'es où, Lise? Ça fait 32? 32 ans, t'es un peu là. 77, 32 ans. 32 ans marié, puis j'ai encore des affaires à changer. Pas de mari parfait, des affaires à changer encore, puis tout ça. Et c'est ça que Paul est en train de dire. C'est ça que le Seigneur est en train de dire sous la plume de Paul. Ne restez pas le même. Travaillez à vous perfectionner, à changer, à vous améliorer et devenir de plus en plus comme Christ. Changez, perfectionnez-vous. Et je peux vous dire une affaire, si vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas quoi faire, venez voir les anciens. Ils ont tout mis un programme, ils ont une vision, ils ont à cœur votre croissance. Tout est là ici pour grandir. Toutes les ressources sont toutes là. Il n'y a pas d'excuse ici. Là. Vous voulez grandir, vous êtes à la bonne place. Tout est là. L'équipe est là et tout ça. Alors, perfectionnez-vous. Travaillez. Et c'est ça la vie chrétienne, dans le fond. Hein? La vie chrétienne, le mot dans l'original pour se perfectionner ici, c'est redresser. Un peu comme un os qui est brisé, tu veux le remettre tout droit. Et c'est ça, on est constamment en train de remettre notre vie en ordre. Parfois, tu vas, les priorités ne sont pas à bonne place, alors tu veux travailler pour ramener les priorités à bonne place. Ta façon de penser n'est pas tout à fait correcte, pas selon les Écritures. Alors tu veux changer ta façon de penser, tu veux redresser tes pensées. Tu as une mauvaise attitude, tu veux changer, redresser ton attitude. Tu as une mauvaise doctrine, une mauvaise conception de Dieu, ou de la parole, ou des grandes doctrines des Écritures. Tu travailles pour les redresser constamment, et c'est correct, c'est ça que Dieu veut. Ça fait partie de la vie chrétienne, ça, constamment en train de redresser des choses pour t'améliorer, grandir et devenir de plus en plus comme Christ. Alors, pour qu'une Église soit vraiment unie, vibrante, ça prend des chrétiens à l'intérieur qui sont dans la joie abondante, qui cherchent à grandir dans le Seigneur. Troisièmement, je ne sais pas si vous en avez besoin, mais on en a besoin hein, des fois, verset 11, troisièmement, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous et consolez-vous. Avez-vous besoin des fois de consolation et d'encouragement? C'est ça, c'est l'encouragement dans le fond. Le mot original est l'idée de se mettre à côté d'une personne et lui dire des mots d'encouragement. Exhorter, encourager, consoler. Et parfois, on a besoin d'être encouragé, avancé dans notre vie chrétienne. Des fois, on va avoir des accrochages, des fois, on va avoir des difficultés et tout ça. Encourageons-nous. Les uns les autres. Personne ici devrait vivre en ermite. Unissez-vous à l'Église, c'est ça que ça dit. Parce que vous avez besoin d'encouragement, nous avons besoin d'encouragement les uns les autres. Attachez-vous à l'Église. Entrez dans la vie de l'Église de Longueuil. Faites pas juste venir comme visiteur. Entrez puis partir. Entrez dans la vie de l'Église. Attachez-vous à un petit groupe. Investissez-vous dans la vie des gens ici. Parce que c'est ça que Dieu nous demande. C'est ça, une Église en santé. Vous avez besoin de ça. Et d'autres ont besoin aussi de votre apport, de votre vie, de vos dons. Ayez les mêmes sentiments. Ça veut dire quoi? C'est les mêmes sentiments que le Seigneur. Penser comme le Seigneur, c'est de plus en plus faire les œuvres de Christ, avoir l'attitude de Christ, avoir l'humilité de Jésus, avoir le cœur de serviteur comme Jésus a fait à laver les pieds des disciples, Avoir l'amour de Jésus, la compassion pour les âmes comme Christ. C'est ça, avoir le même sentiment. Avoir le même sentiment que le Seigneur. Avoir des soucis que le Seigneur a. Les préoccupations de voir l'œuvre de Dieu avancer, être Dieu et que Dieu soit glorifié de plus en plus. C'est ça, avoir les mêmes pensées de Christ. C'est penser comme le Seigneur. Et c'est ça qu'on veut comme enfant de Dieu, membre de cette Église. De plus en plus, avoir les mêmes pensées de Christ. Avoir les mêmes sentiments. Cinquièmement, c'est de vivre en paix. C'est de s'apaiser, comme Alexandre l'a si bien dit tantôt. S'apaiser, se calmer en Dieu, vivre en paix. Pas chercher la chicane, mais chercher la réconciliation. On veut être des gens reconnus pour réconcilier les frères et les sœurs et qu'on marche dans l'unité. C'est ça. C'est ça ici, de vivre en paix. Et verset 12, ça dit « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. » Ça veut dire quoi? C'est de s'accueillir. Vous pouvez imaginer à l'époque où il y avait des esclaves, où il y avait des gens riches. Et je lisais justement ce livre de Roman Wives, Roman Widows, qui disait que Auguste, le César, avait donné une loi où les gens devaient s'habiller selon leur statut. Donc, tu pouvais regarder juste dehors et voir comment les gens étaient habillés. Et tu savais tout de suite quel statut ils étaient. On peut facilement comprendre les exhortations qu'on voit dans le Nouveau Testament de ne pas faire de favoritisme. Tu pouvais être sûr de savoir. Tu pouvais savoir le compte en banque d'une personne par la façon qu'elle s'habillait. Et c'était même légal. Et parfois aussi l'adultère, celle qui avait péché, tout ça, devait se vêtir d'une certaine façon. C'était la loi. Tout le monde dans la rue savait que tu étais pécheur. Alors vous pouvez imaginer quand vous entrez dans une église et juste... Votre linge pouvait tout de suite révéler des choses personnelles de votre vie. Comment ce serait facile de tomber dans le jugement au sein de l'Église à cette époque. Vous pouvez imaginer qu'une personne qui est riche, qui voit des esclaves entrer dans l'Église, et Paul va dire, va l'embrasser. Saluez-vous par un saint baiser. Le riche qui va embrasser l'esclave, le serrer dans ses bras et l'accueillir comme un frère. C'est l'affection, c'est de l'amour, c'est d'éliminer le favoritisme. C'est que l'Église, tu veux avoir une Église qui est pleine d'amour, une Église qui s'aime, une Église qui s'aime les uns les autres. Affectionnez-vous, accueillez-vous, c'est ça, c'est l'accueil. Tout le monde devrait se sentir accueilli au sein de l'Église. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait ça? Avez-vous pris un étranger? Ça serait bon à la fin du culte de voir ça, que vous allez voir un étranger dans l'Église à qui vous n'avez jamais parlé. Vous allez lui donner un saint baiser. Hein? C'est ça que Paul est en train de dire ici. C'est d'avoir de l'affection, d'avoir de l'amour, de la délicatesse les uns envers les autres. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les vrais disciples, n'est-ce pas? C'est où est-ce qu'il y a de l'amour les uns pour les autres. Une église où tout le monde se sent aimé. Alors voilà les 6 attitudes à poursuivre comme enfant de Dieu. Cette église va être unie dans la mesure où elle témoigne de ces 6 attitudes chrétiennes. Une église qui est un lieu où on se réjouit dans le Seigneur, où on grandit, où on cherche à grandir tous et chacun, à s'améliorer, à changer. Un lieu où on s'encourage les uns les autres, où on cherche à avoir la pensée du Seigneur, à penser comme Christ, où l'on cherche à vivre en paix, où l'on s'affectionne les uns les autres. C'est ça, le souci d'un pasteur. C'est ça, le souci de Paul. C'est ça, le souci du Seigneur. C'est ça qu'il veut voir, il veut voir son Église avec ses belles attitudes. Et tu ne pourras pas faire ça sans l'aide de Dieu. Et c'est ça que Paul ajoute, il va intercaler ce petit détail tellement bien. Il va dire... Verset 11, à la fin du verset 11, le verset 11 termine en disant, « Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Le Dieu est là pour nous aider à faire ça. Dieu est là, il nous accompagne. Le Dieu d'amour va nous aider à nous aimer les uns les autres. Le Dieu de paix va nous aider à être en paix les uns avec les autres. Dieu est avec nous. Dieu nous accompagne, il nous aide à changer, il nous aide à grandir. Et il est là, avec nous. Alors, on veut se rappeler que tous ces changements dans nos vies sont possibles avec l'aide de Dieu, seulement avec l'aide de Dieu. Il est la source de l'amour, la source de la paix. Par sa puissance, nous allons changer. Par sa puissance, nous allons pouvoir rester dans la joie dans les moments difficiles de la vie. Par sa puissance, on va pouvoir être capable de chanter les louanges le dimanche lorsque notre vie est à l'envers, où ça ne va tellement pas bien, où on vit des crises. C'est sa puissance qui nous donne ça. Et l'apôtre Paul va terminer par une bénédiction que j'aimerais prononcer aussi envers vous. Une belle bénédiction, j'aimerais la lire avant. Verset 13, qui dit ceci. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Réalisez-vous ce qu'il est en train de dire. Que toute la richesse de la grâce de notre Seigneur Jésus vous accompagne. Oh, que vous puissiez découvrir la grâce, la plénitude, l'abondante grâce qui nous a été faite en Christ. C'est ça la bénédiction que Paul prononce envers l'Église. Que la richesse, que toute la richesse de l'amour de Dieu soit avec vous. Imaginez. Que toute la richesse et la beauté, la splendeur de la communion avec le Saint-Esprit vous accompagne. Pensez-y, là. C'est ça que Paul leur souhaite. Et c'est ça que j'aimerais vous souhaiter. Alors, j'aimerais vous encourager à vous lever. Levez-vous ensemble, là. Et j'aimerais vous bénir de cette façon-là. Prononcez cette bénédiction-là sur vous ce matin. D'accord? Que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu, et toute la richesse de la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta grâce abondante, pour ton amour et pour la communion que nous avons avec le Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu as fait dans les derniers 40 quelques années ici au sein de cette Église. Et merci pour ce que tu vas faire. Tu vas faire des choses encore plus grandes. Je sais, Seigneur, que tu vas susciter des gens ici qui iront à travers le monde entier partager la bonne nouvelle. Oui, Seigneur, envoie des ouvriers. Suscite de nouveaux ouvriers. Ici même, il y a peut-être des gens dans l'Église en ce moment même que tu vas appeler un jour. Alors, Seigneur, on te prie que cette Église puisse témoigner de ces belles attitudes que nous avons vues ce matin et qu'elle marche dans l'unité pour ta gloire. Bénis l'Église de Longueuil, bénis l'Église de l'Espoir et que cette Église soit un flambeau dans tout le quartier, toute la région de la Rive-Sud. Que cette Église puisse te glorifier et que plusieurs milliers de personnes, Seigneur, viennent à la connaissance de Jésus-Christ, s'intègrent dans cette Église dans les prochaines années et te donnent gloire, abandonnent leurs péchés, abandonnent leur vie de drogue, d'alcool, peut-être leur infidélité, peut-être des mariages brisés. Seigneur, on te prie que nous puissions voir plusieurs conversions, des témoignages puissants de vie transformées par ta grâce ici dans cette Église, se joindre ici, que cette Église puisse te donner toute la gloire. Merci pour les belles années où j'étais ici, Seigneur. Combien tu m'as enseigné, combien j'ai appris ici. Tu as placé des frères et des sœurs ici qui avaient un souci pour moi, pour me voir grandir. Merci pour les mots de témoignage, les témoignages d'amour, d'encouragement lorsque j'avais besoin d'encouragement. Merci pour les frères et sœurs qui ont prié pour nous ou pour nos enfants. Merci, Seigneur, pour cette belle Église qui a marqué notre famille, Seigneur, sur plusieurs plans. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Amen.
Vous pouvez vous asseoir, merci. Simplement mentionner, les Joseph vont revenir à la fin du mois de septembre. On va leur faire une petite fête, mais c'est un moment important. On va prendre un temps de prière dans quelques minutes ensemble pour la famille Joseph, puis je vais inviter les anciens qui sont présents, qui ne sont pas à l'extérieur, à venir me rejoindre à l'avant, mais je voulais quand même dire un mot concernant Normand. Certainement, l'Église a connu de toi certains un ministère privé, beaucoup un ministère public, mais moi, j'ai travaillé avec toi. Fait que l'Église a certainement connu de toi. Il y aurait plein de choses à dire, j'imagine, puis si on demandait à l'Assemblée, on en entendrait plusieurs. Et peut-être à la fin septembre, ça serait un bon moment pour le faire, mais que tu es un homme chaleureux. Certainement, l'Église témoignerait de ça, ta chaleur. Tu es un homme rassurant aussi. L'Église a connu que c'est rassurant de t'avoir dans les parages, de t'avoir autour. Et ça, c'est une sécurité. Ta prédication dynamique et ton amour de la parole de Dieu. Ça, c'est des choses que j'ai pensées qui, il me semble déjà dans ton ministère public, sont marquants. Madame, moi, j'ai connu d'autres choses, plus personnelles, plus privées à travers le ministère. Dans Proverbe 19, verset 22, excusez-moi. Dans Proverbe 19, verset 22, il y a un texte qui est pour moi une aspiration profonde de mon cœur. Et je dirais que Dieu t'a donné ça. Dieu t'a donné ça. C'est un texte extraordinaire. Proverbe 19, 22 dit, « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. » Et vraiment, je peux témoigner, à travers notre ministère, à travers des moments difficiles parfois, je t'ai connu comme un homme bon. T'es un homme qui est caractérisé par la bonté, Normand. Dans les moments difficiles, les coups durs, les attaques, dans tous les moments, t'es un homme qui est bon. C'est vraiment c'est ta marque, selon moi. Puis je l'ai connu personnellement. Je t'ai connu pour ta bonté. Je t'ai connu pour ton amour de Dieu. T'as une sainte crainte de Dieu. Des fois, ça ne sort pas dans un ministère public. C'est dans les moments de discussion intime, lorsque tu vois le cœur troublé d'un frère, tu as une crainte de Dieu qui exprime un amour fervent pour ton Sauveur. Et ça, c'est constamment là, ça revient constamment dans ta vie, spécialement dans les moments difficiles. J'ai eu quelques fois ces fenêtres-là avec toi et c'est vraiment beau à voir, c'est vraiment édifiant. Tu es un homme humble, Normand. On lutte tous avec l'orgueil. On est tous des orgueilleux, mais tu es un homme humble parce que tu t'examines, parce que tu acceptes ces moments difficiles où tu vas entrer en toi-même. Et puis comme ton expression, tu disais souvent du soul searching, c'est la marque de l'humilité, ça. Et je t'ai connu comme un homme humble, un homme qui est capable de faire ces durs labeurs d'introspection. Un homme courageux. Définitivement. L'image que j'avais, c'est le type d'homme avec qui tu voudrais monter au combat. Et tu es un entrepreneur pour Dieu. Tu es un homme courageux qui est prêt à entreprendre afin des sauts de foi terribles. Et ça, c'est une de tes marques. Tu es ce genre d'homme avec qui on voudrait monter au front et être prêt à aller rentrer dans la bataille. Tu es un homme responsable et dans un domaine très particulier, où j'ai vu ça à plusieurs reprises. Tu es très responsable par rapport à l'Église de Jésus-Christ. J'ai vu dans nos discussions, dans nos échanges, cette crainte de faire du mal à l'épouse de Christ. Ce sentiment d'être responsable, d'avoir entre tes mains la charge de prendre soin de l'épouse de notre Sauveur. Et ce grand sentiment de responsabilité. Et ça fait de toi un homme loyal. Ça fait de toi un homme rassurant. Quand les choses commencent à trembler, tu veux avoir Normand Joseph à côté de toi. Parce qu'il est responsable. Il va te rassurer. Et certainement ton amour pour la parole de Dieu. malgré toutes les charges d'administration qui ont pu tomber sur les épaules, même que j'ai pu te renvoyer. À chaque fois que le ministère te permettait de retrouver l'espace pour plonger dans la parole, ce témoignage-là revenait constamment, ton amour pour la parole de Dieu. Tu étais un modèle pour moi, Normand, dans tous ces domaines-là, certainement dans d'autres. Là, je t'écoutais à moitié ce matin, mais certainement dans d'autres aussi, tu étais un modèle pour moi. Merci. Alors, j'aimerais inviter, s'il vous plaît, les anciens qui sont ici ce matin. Je sais qu'il y a Jean-Paul comme ancien formation qui est à l'extérieur, je crois, mais ceux qui sont avec nous, si vous voulez venir me rejoindre à l'avant, je te demandais, Normand, de venir avec Lise aussi. Je n'ai pas vu si Lise est dans la salle ou si elle était au kiosque. Alors, comme je vous dis, on va avoir un moment avec eux à la fin septembre, mais certainement, on veut prendre un temps de prière ensemble pour les Joseph. Alexandre a pensé, a demandé un beau petit bouquet. Puis Cézy nous a dit que c'est ça qu'il fallait pour Lison. Alors, j'aimerais ça inviter l'Assemblée. On va prendre quelques minutes ensemble. Il va falloir que vous priez fort de là où vous êtes. Peut-être vous lever si ça vous aide à faire porter votre voix. Mais on va aller dans un temps de prière, d'action de grâce et de prière pour les Joseph. Et puis, les anciens aussi vont prier, puis je vais terminer. Sentez-vous bien libre des prières courtes, de bénédictions, d'actions de grâce pour Normand et Lise.